VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahman Dia, la présentation de cette édition de 18h30 TU. On est mardi 4 juillet 2017 au sommaire. La question du financement de l'Union africaine au centre du 29e sommet des chefs d'État qui s'est achevé ce mardi. Une taxe sur l'importation va être mise sur pied. Les députés burkinabés votent une loi modifiant le fonctionnement de la Haute Cour de justice qui doit juger les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Grève dans le secteur pétrolier en Côte d'Ivoire. Les travailleurs réclament une meilleure gestion de l'entreprise publique Petrosi. La Corée du Nord teste un nouveau missile. Donald Trump élève le ton. Moscou et Pékin appellent à la retenue. Également dans cette édition, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Les dirigeants africains ont donné leur accord pour l'institution d'une taxe de 0,2% sur les importations pour assurer le financement de l'Union africaine. C'est entre autres ce qui ressort du 29e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé aujourd'hui à Addis Abeba. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
La taxe de 0,2% est imposée sur les marchandises importées des États qui ne sont pas membres de l'Union africaine et destinées à la consommation. L'Union africaine cherche ainsi à s'assurer un financement fiable pour mener ses missions de maintien de la paix grâce à un fonds pour la paix. Cela va permettre de réduire la dépendance à l'égard des partenaires extérieurs et financer les programmes de développement et d'intégration, en même temps répondre à ses besoins financiers d'ici 2022. Ce prélèvement a été décidé lors du 27e sommet de l'Union africaine en juillet 2016 à Kigali. Pour l'heure, plus de 50% des financements de l'Union viennent des bailleurs non africains.
Le ministre marocain des Affaires étrangères s'est dit très satisfait des décisions relatives au Sahara occidental prises par l'Union africaine lors de son sommet qui s'est tenu à Addis Abeba. Nasser Bourita, dont le pays participait à son premier sommet depuis son retour au sein de l'UA en janvier, après 33 ans d'absence, a affirmé que les manœuvres et les tergiversations ont été écartées. M. Bourita s'est également réjoui que les chefs d'État de l'UA aient adopté une résolution appelant à apporter le soutien approprié au secrétaire général de l'ONU pour résoudre le différend du Sahara occidental. Cette résolution est très importante et constitue une évolution, a estimé le ministre marocain, car selon lui, elle reconnaît le leadership de l'ONU et que la gestion du dossier du Sahara occidental est à New York. Les députés burkinabés ont voté ce mardi le projet de loi devant corriger le fonctionnement et la composition de la Haute Cour de justice. Cela devrait permettre à cette juridiction de reprendre le procès des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Explication au Bagasikoura.
Ce procès a été suspendu il y a quelques semaines suite à un avis du Conseil constitutionnel qui avait jugé que deux articles de cette haute cour étaient contraires à la Constitution. Le projet de loi qui a été voté ce mardi prend donc en compte les critiques qui avaient été formulées. Désormais, les partis pourront faire appel du verdict de la haute cour. Les victimes peuvent se constituer en partie civile et la défense pourra représenter des clients qui sont absents, comme Blaise Compaoré, qui vit en Côte d'Ivoire depuis sa chute du pouvoir fin 2014. Mais cela ne satisfait pas le camp des accusés. Dans une déclaration, Léonce Kone, un des responsables du CDP, l'ancien parti au pouvoir, a critiqué la nouvelle réforme, soulignant que les appels ne peuvent pas se faire devant une autre juridiction que la Haute Cour. Car cela ne tienne, avec ce vote, l'Assemblée nationale ouvre la voie pour la reprise du procès des derniers ministres de Compaoré.
En Côte d'Ivoire, les employés de la Société nationale des pétroles sont en grève illimitée. Ils dénoncent la mauvaise gestion de l'entreprise publique Petrosi. Les explications d'Eric Manirakiza.
Selon le porte-parole des employés Ange Didier Coutoin, ils ont répondu à l'appel du Syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire contre des dépenses incongrues du directeur général, des voyages en jet privé et des contrats farfelus. Ces agents réclament aussi un plan social en cas de licenciement dans le cadre d'un projet de privatisation de l'entreprise. Celle-ci gère l'exploration, la production et la distribution de pétrole. un secteur qui emploie un millier de personnes.
Des éléments du groupe armé nigérian Boko Haram ont tué 9 personnes et enlevé 37 femmes dans un village du sud-est du Niger, près de la frontière avec le Nigeria. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la région de Diffa. Selon lui, les victimes ont été égorgées. Laoula Mohamed Dandano précise que les éléments de Boko Haram sont venus à pied dans le village d'Ngalewa pour mieux se faufiler à travers le lac Tchad et le dispositif sécuritaire. Au Ghana, au moins 17 mineurs étaient toujours recherchés ce mardi par les équipes de secours après l'effondrement dimanche d'une mine d'or illégale dans le sud-est du pays. La mine abandonnée profonde de 80 mètres a cédé dimanche après-midi alors que les mineurs remontaient à la surface. Plusieurs mineurs avaient réussi à sortir sains et saufs avant l'effondrement total de la mine, mais depuis, aucun des mineurs disparus n'a été retrouvé. La Commission de l'Union européenne a proposé ce mardi un plan d'action pour soutenir l'Italie, débordée par des arrivées incessantes de migrants sur ses côtes depuis la Libye. Cette initiative prévoit notamment de nouveaux financements pour aider les autorités italiennes et libyennes à maîtriser la situation. Le plan présenté au Parlement européen à Strasbourg prévoit de renforcer encore plus les capacités des autorités libyennes grâce à un projet de 46 millions d'euros élaboré conjointement avec l'Italie et d'augmenter également l'aide directe à l'Italie grâce à une enveloppe supplémentaire de 35 millions d'euros prête à être immédiatement mobilisée.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La toute première rencontre entre les présidents américains Donald Trump et russe Vladimir Poutine se déroulera vendredi à Hambourg, en marge du G20. Le principe d'une rencontre avait été retenu la semaine dernière par la Maison-Blanche, sans précision sur son calendrier. Mais selon les médias américains, la question de l'implication présumée des Russes dans le piratage d'emails de démocrates lors des élections américaines de 2016 ne sera pas évoquée lors de cette rencontre. L'organisation État islamique acculée dans son fief de Raqqa, des combattants syriens ont brisé les lignes de défense des islamistes dans la vieille ville syrienne après l'ouverture de brèches dans le mur d'enceinte par des raids américains. Dans le même temps, en Irak, les forces gouvernementales appuyées également par les États-Unis livrent des combats acharnés aux combattants du groupe État islamique acculé dans leur dernier carré à Mossoul. Le ministre qatari des Affaires étrangères a affirmé que la liste des demandes de l'Arabie saoudite et de ses alliés était irréaliste. La liste ne porte pas sur le terrorisme et elle appelle à mettre fin à la liberté d'expression, a affirmé Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte exigent de l'Émirat gazier de fermer la chaîne Al Jazeera et une base militaire turque et de réduire ses relations avec l'Iran. La compagnie aérienne saoudienne a dit s'attendre à la levée dès le 19 juillet prochain de l'interdiction d'ordinateurs portables et de tablettes en cabine sur ses vols à destination des États-Unis. Dans un communiqué, cette compagnie saoudienne précise s'employer à appliquer les mesures de sécurité supplémentaires réclamées par le département américain de la sécurité intérieure pour permettre à ses passagers se rendant aux États-Unis d'embarquer avec leur portable dès le 19 juillet au plus tard. Les États-Unis ont décidé en mars dernier d'interdire des ordinateurs portables et des tablettes en cabine sur les vols de 9 compagnies aériennes en provenance de 10 aéroports internationaux de pays arabes, dont l'Arabie saoudite, la Turquie également, invoquant un risque d'attentat. La Corée du Nord a déclaré avoir mené avec succès le lancement d'un missile balistique intercontinental, une étape cruciale dans les efforts de Pyongyang pour développer sa capacité nucléaire, malgré des avertissements internationaux répétés. Les réactions ne se sont pas fait attendre, Gaby Dorsil.
Dans une déclaration conjointe, les ministères russes et chinois des affaires étrangères ont appelé à un double moratoire. Pyongyang arrêterait ses tests nucléaires et balistiques et Washington renoncerait à organiser des manœuvres militaires à grande échelle aux côtés de son allié sud-coréen. De son côté, le président Donald Trump a appelé les Chinois, alliés de Pyongyang, à mettre fin à cette absurdité une bonne fois pour toutes. L'Union européenne prône des sanctions encore plus sévères. Le missile, qui a été lancé depuis un aéroport près de la frontière nord-est de la Chine avec la Corée du Nord et qui a atterri dans la zone économique spéciale du Japon, a envoyé des ondes de choc à travers la classe politique à Tokyo. Cela confirme, selon elle, l'incapacité de Pékin de contrôler son allié.
Et puis au Venezuela, la procureure générale Luisa Ortega, entrée en rébellion contre le président Nicolas Maduro, comparée devant la Cour suprême, elle doit décider si elle ouvre un procès à son encontre pouvant mener à sa destitution. Ce matin, le bâtiment de la Cour suprême était gardé par les militaires de la garde nationale. Elle avait prononcé un discours très critique envers le président Maduro, risquant d'approfondir encore davantage les fractures au sein du pouvoir. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Dili Dico.
Le Cap-Vert va recevoir un prêt additionnel de 27 millions de dollars de la Banque mondiale pour renforcer les projets de réforme des transports entamés en 2013. Le gouvernement de Praia explique que ce financement permettra d'améliorer le réseau routier et d'accroître les performances des entreprises. Sur les 27 millions de dollars, 17 seront consacrés à la rénovation et à l'entretien des routes. Le président zimbabwéen Robert Mugabe fait un don d'$1 million à l'Union africaine, expliquant que l'Afrique doit pouvoir se financer d'elle-même. Monsieur Mugabe a eu l'idée de vendre aux enchères 300 têtes de bétail et reverser la somme à l'Union africaine. En 2017, le budget de l'organisation panafricaine est passé de 782 millions de dollars contre 416 millions en 2016. Plus de 60% des financements de l'UA proviennent de bailleurs de fonds extérieurs comme l'Union européenne, la Banque mondiale et les pays développés. L'Africa Finance Corporation accorde un prêt subordonné de 28 millions de dollars à l'entreprise tunisienne Topic SA. Ce prêt financera la toute première exploitation pétrolière de la concession offshore Alk El Manzel en Tunisie. Le titre subordonné est d'une durée de 30 mois et garantira la réalisation du projet d'une première production pétrolière d'ici janvier 2018.
Voilà l'heure d'accueillir Yacouba Ouedraogo pour la page des sports. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Éliminatoire mondial 2018, la Guinée ne veut pas jouer en Tunisie.
Tout à fait, Abdourahmane. Dans une correspondance adressée à la Fédération internationale de football Association FIFA, la Guinée refute le lieu de la rencontre devant l'opposé au mois d'août prochain à la Libye dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018. D'après la programmation de l'instance mondiale, Chevalier de la Méditerranée et Scylla nationale s'affronteront à Tunis, la Libye étant toujours interdite d'abriter des rencontres sur son sol en raison de l'instabilité sociopolitique dans le pays. Cependant, il savait que la Tunisie est une adversaire des deux équipes dans les éliminatoires. C'est sur cette base que les dirigeants de la Fédération guinéenne de football ont rejeté le lieu de la rencontre.
Guy Rolandi Assembé est gravement blessé ou pas?
Oui, il est blessé. L'international camerounais gardien de but a été victime d'une rupture du tendon d'Achille et sera absent environ 6 mois. Un premier coup dur pour son club, Nancy, relégué en deuxième division la saison dernière.
Paul-José Poku revient au Standard.
Tout à fait, c'est un retour en Belgique pour l'attaquant congolais formé au Standard de Liège qui a passé 4 saisons après des passages mitigés en Italie ou encore en Grèce. Poku a notamment joué depuis son départ de Belgique au Chievo Vérone puis à Cagliari avant de s'engager au Panathinaikos.
Sambou Yatabaré est en garde à vue.
L'international malien est en garde à vue à Paris depuis dimanche dernier pour une agression sur un policier, un fait qui a mis en indisponibilité pour 21 jours l'homme en uniforme. Le joueur du Werder Bremen n'aurait pas toléré les remontrances du policier pour mauvaise conduite et lui a asséné des coups de poing.
D'accord, et puis on termine par le Tour de France. Peter Sagan est exclu.
Le champion du monde à l'origine d'une lourde chute à l'arrivée de la 4e étape à Vittel aujourd'hui même a été exclu du Tour de France. Il avait terminé 2e sur la ligne d'arrivée. Inamovible maillot vert du Tour de France depuis 2012, Peter Sagan avait remporté la 3e étape lundi, signant du même coup son 8e succès sur la Grande Boucle. Le français Arnaud Démare s'est imposé à cette 4e étape. Thomas Gérin garde le maillot jaune.
Yacouba Ouedraogo, merci beaucoup.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Fin aujourd'hui à Addis Abeba du 29e sommet ordinaire de l'Union africaine. Lors de son ouverture hier, le président en exercice, le Guinéen Alpha Condé, a appelé à l'investissement pour la jeunesse. Le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, s'est fixé l'objectif de faire baisser les tensions pour privilégier les solutions politiques et faire taire les armes d'ici 2020. Pour analyse, Eric Manirekiza a joint à Dakar un spécialiste de l'Union africaine. Il s'agit de Ibrahim Khan.
On a les taux de scolarisation les plus bas, on a les systèmes éducatifs les moins performants du monde. Si vous regardez par exemple le classement des universités de Shanghai, vous ne voyez pas plus de deux universités africaines et les deux universités africaines sont de l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique est absente de ce point de vue. Il faut que l'éducation primaire, l'éducation secondaire, l'éducation supérieure, tout ça soit récompensé pour donner de l'espoir. Et puis aussi que l'université puisse jouer sa vocation première qui est de répondre aux besoins de la société. Prenez l'université de Dakar, la moitié des étudiants de l'Université de Dakar sont à la faculté de lettres. 50 000 étudiants. Comment voulez-vous développer un pays? Comment voulez-vous trouver des emplois pour 50 000 étudiants qui font lettres? Ils n'ont pas pu être des enseignants. On a besoin de scientifiques, on a besoin de techniciens. Aujourd'hui, c'est la technologie qui fait fonctionner le monde. Mais on a peu d'étudiants dans ce secteur. Donc, il faut pour donner de l'espoir aux jeunes que l'on repense tout cela. La question fondamentale dans le discours, c'est qu'il n'a pas dit comment ils vont le faire. Aujourd'hui, la question est brûlante. Il faut trouver des solutions dans les 10 prochaines années pour les jeunes.
Moussa Faki Mahama, il veut taire les armes d'ici 2020, c'est-à-dire faire baisser les tensions pour privilégier des solutions politiques. Est-ce vraiment possible?
Possible, oui. Parce que vous savez, rien n'est impossible sur cette terre africaine. Il y a 2 ans, tout le monde pensait que le Nigeria allait s'écrouler à cause de la pression qu'exerçait Boko Haram, non seulement sur le nord du pays, mais pratiquement sur tout le Nigeria. Et 1 an, 2 ans, quand les États ont décidé de coordonner leurs efforts, de se mettre ensemble pour travailler pour enlever cette plaie de la région, il y a des succès qui sont notés, qui vraiment donnent des raisons d'espérer. Il y a beaucoup d'États qui risquent de disparaître de la carte. Je pense au Mali, je pense au Niger, dans une moindre mesure au Burkina Faso. Si on ne fait pas l'effort de contenir cette situation, de régler ces problèmes, on n'ira nulle part.
Et le refus de l'alternance politique est souvent source de conflits. Et on sait que la plupart de ces chefs d'État, ils veulent se maintenir toujours au pouvoir.
Dans certaines régions, on est encore englué dans des difficultés. Je pense particulièrement à l'Afrique de l'Est, où on ne parvient pas jusqu'à présent à vraiment prendre la question du Burundi de manière très positive.
La RDC également.
C'est une question à part pour moi. La RDC, c'est aujourd'hui la mauvaise conscience de l'Afrique. En ce sens qu'on n'a plus les éléments en main pour essayer de gérer cette crise, mais rien n'est fait pour arrêter les crimes qui sont commis quotidiennement sur ce territoire.
C'était Ibrahim Khan, joint à Dakar par Eric Manirakiza.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Les retombées du 29e sommet de l'Union africaine qui a pris fin mardi dernier en Éthiopie. Autofinancement, gouvernance et jeunesse africaine. L'UA a-t-elle fait des avancées sur ces sujets qui polarisent l'attention depuis des années? Et alors que l'ONU veut passer le témoin à l'UA concernant les opérations de maintien de la paix sur le continent, l'institution panafricaine pourrait-elle relever le défi? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
En République centrafricaine, la situation sécuritaire reste volatile à l'intérieur du pays. Plusieurs régions sont encore secouées par les violences armées. Par exemple, des dizaines de personnes ont été tuées entre samedi et lundi. Le point sur la situation avec Freeman Sepila.
Les attaques contre les civils ont nettement augmenté ces derniers jours. Plusieurs régions du pays sont de nouveau passées sous contrôle des hommes armés. À Zemio, où la tension est encore vive, les corps jonchent le sol. La maire de la ville appelle à l'aide.
Depuis mardi passé jusqu'à aujourd'hui, les corps restent dehors. Donc les corps, ça commence pour dégager un gouvernement centrafricain. Vraiment, il faut sauver, il reste la population qui est au niveau des catholiques ou au niveau de l'hôpital général, HR aussi, une HR, CSR, pour aller là-bas pour ramasser le corps qui restait depuis mardi passé, qui est décomposé, commencé pour remonter jusqu'au niveau des catholiques. Et c'est ça, il faut vraiment prendre la responsabilité pour sauver les populations.
Le week-end dernier, au moins 15 personnes, parmi lesquelles une dizaine d'assaillants ont été tués à la suite d'une attaque d'un site des déplacés sécurisé par la MINUSCA à Kagabandoro. La mission onusienne promet une riposte appropriée en cas d'une nouvelle agression. Vladimir Montero, son porte-parole.
Il y a effectivement une attaque à Kagabandoro, mais la force de la MINUSCA ainsi que l'unité de police qui est déployée depuis hier contrôle les principaux axes de la ville et protège le camp des déplacés. Et grâce à cette posture robuste, les éléments armés ne sont pas parvenus à atteindre leur but dans la ville et nous continuons à assurer cette présence pour mettre en échec cette tentative. Nous faisons tout pour que la population ne souffre des exactions que ces gens s'apprêtaient à commettre.
Dans la préfecture de Lampindé, plusieurs villages aux alentours de Ngaoundaï sont investis dimanche et lundi par des hommes armés du MPC, Mouvement Patriotique Centrafricain, et de RJ, Révolution Justice. Le député de la région lance un cri de détresse, Bernard Dila.
Il y a deux jours de cela, il y a RJ et MPC, ils sont allés, ils ont envahi deux villages à proximité de la ville de Ngaoundaï. Le village Mboum et le village Nzoro. Ils ont pris ce village, tout le monde est parti. Quand un groupe armé envahir un village, que vous le vouliez ou pas. Il y a des dégâts même du point de vue des gens humanitaires, puisque toute la population s'enfuit pour aller dans la brousse. Les femmes enceintes vont vivre dans la brousse. Les hommes qui sont malades vont vivre dans la brousse. Mais comment ça va se passer? Ils ont signé un engagement, ils n'ont qu'à respecter leur engagement. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils nous disent la vérité? Parce que la population commence à en avoir marre.
Cette spirale de violence surgit alors que les principaux groupes armés du pays ont signé le 19 juin dernier à Rome un accord dit entente de Saint-Étienne. Un accord politique pour la paix recommandant un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire centrafricain. Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Retour sur le sommet du dimanche à Bamako entre les chefs d'État du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron. Ils ont décidé de lancer dans les semaines à venir une force antiterroriste, une initiative fortement soutenue par la France. Au micro de Bagassi Koura, écoutons le ministre malien de la Défense, Tienan Koulibaly.
Le président français est venu d'abord soutenir le principe du G5 Sahel. Il a réaffirmé en tant que membre permanent du Conseil de sécurité que la France continue à soutenir la MINUSMA au Mali, donc la MINUSMA va continuer, que la France continue à aider à titre bilatéral le Mali dans la lutte contre le terrorisme en maintenant Barkhane au Mali, et qu'en plus de tout ça, la France soutient l'idée de la mutualisation des efforts au sein du G5 Sahel. Il l'a dit d'abord à Gao le 19 mai, il a demandé à rencontrer les 5 chefs d'État ensemble, et c'est ça là le sommet de Bamako hier. Et hier, il a annoncé une contribution de 8 millions d'euros, c'est-à-dire ils vont fournir des véhicules, des équipements et tout ça. Le président a annoncé hier qu'à titre individuel, à titre bilatéral, il va entreprendre certains autres États européens pour que, en plus de la contribution de l'Union européenne, les pays individuellement et l'Allemagne en tête, eux aussi continuent à soutenir le G5 Sahel.
Quand on vous écoute, on vous entend parler de la France, de l'Union européenne, est-ce que ce n'est pas un peu trop porté vers l'Occident, puisque vous ne mentionnez même pas l'Union africaine?
Alors, si je ne me suis pas mentionné l'Union africaine, je me suis lourdement trompé, puisque en vérité, lorsque les 5 pays se sont entendus, la première instance à laquelle ils ont présenté leur projet, c'est l'Union africaine. C'est donc l'Union africaine qui, en premier lieu, au mois d'avril, je crois, ou d'avril ou de même en tout cas, l'Union africaine qui, en premier lieu, a pris une résolution pour soutenir le G5 Sahel. C'est l'Union africaine qui a porté le dossier du G5 Sahel aux Nations Unies ou, puisque aux Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, c'est un membre permanent qui est toujours porteur du dossier, où la France a appuyé le dossier. Donc l'Union africaine est bien sûr avec nous.
Concrètement, sur le terrain, quand est-ce qu'on va voir les premiers soldats de cette force du G5?
Je vous dis d'abord comment ça va fonctionner. Le G5, c'est des soldats qui vont essentiellement se déployer aux frontières entre les États membres. Ça veut dire qu'il y a un fuseau ouest du G5 Sahel qui va sécuriser la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Ça veut dire que des soldats vont être déployés de part et d'autre de la frontière jusqu'à 50 km de la frontière. Ça, c'est donc le fuseau ouest. Là, on aura la même chose au fuseau centre, c'est-à-dire frontière Mali-Burkina, frontière Mali-Niger, frontière Burkina-Niger. Et puis le fuseau est, c'est la frontière Tchad-Niger. Et donc, nous passons que c'est bien avant la fin de l'année que tous ces soldats vont être déployés, Inch'Allah.
Tienan Koulibaly, ministre malien de la Défense. Les Américains célèbrent ce mardi l'indépendance des États-Unis. C'est la fête nationale, donc un jour férié. Il y a des célébrations un peu partout dans le pays, mais le pic se déroule la nuit avec d'énormes feux d'artifice. Les Américains célèbrent The Birth of the American State. Donc, comme ils le disent, l'esplanade au cœur de Washington, la capitale, va refuser du monde ce soir. Le point avec John Linden.
Le Mall, comme on l'appelle, ce grand espace vert au milieu de Washington est placé sous haute surveillance policière. Presque toutes les maisons arborent fièrement la bannière étoilée. C'est aussi le jour où les familles et les amis se retrouvent dans l'après-midi autour d'un barbecue avant le grand show à l'américaine ce soir avec un énorme feu d'artifice. Tous les yeux seront rivés vers le ciel pour voir le bouquet final s'illuminer non loin du monument de Washington, et à quelques encablures de la Maison-Blanche.
Les feux d'artifice.
Les feux d'artifice rappellent la guerre, lorsque les Américains unis se battaient pour obtenir l'indépendance de la Grande-Bretagne. On célèbre la naissance d'une nation, mais à peine 6 mois sous la présidence de Donald Trump, la division et les questions politiques occupent l'esprit de beaucoup de citoyens américains, dont Marangeli, venu de Porto Rico.
Le président est dur par son caractère et nous n'avons pas la paix actuellement entre les deux partis républicains et démocrates.
Mike Repka, venu de Lancaster dans l'État de New York, n'est pas du tout de cet avis.
Trump fait beaucoup de choses en coulisses et beaucoup de gens commencent à voir le positif. Et j'espère dans quelques années que toute la nation va se retrouver.
Mike, lui, est venu de Chicago pour assister à la fête.
Vous avez deux partis qui se battent, mais les choses marchent pour tous ou pour la plupart des Américains.
Independence Day, c'est la célébration du rêve américain. Shekar Bocha habite le New Jersey, mais a fait le déplacement vers Washington.
Je crois que le principe d'une nation libre tient toujours et vous réaliserez toujours ce dont vous aviez rêvé et que vous vous efforcez d'accomplir. C'est cela qui rend cette nation spéciale.
Gunnan Lyon est originaire du Connecticut.
Je crois que ce pays est remarquable. C'est vraiment paisible et les gens apprécient vivre ici.
Ivo Atabe, lui, vient de la Virginie, toute proche de la capitale.
Lorsque vous observez l'opinion nationale, vous avez tendance à penser que le pays ne va pas bien, mais lorsque vous comparez à ce qui se passe ailleurs dans le monde, alors vous réalisez que ce pays est superbe.
Independence Day, c'est une journée chômée et payée à la grande joie des travailleurs et des travailleuses.
J'ai un jour de congé que je vais prendre comme un bon anniversaire, un jour pour se détendre. Je ne sais pas pour ce qui est de l'Amérique, j'adore les feux d'artifice et toutes les choses que nous avons créées. Je suis vraiment contente d'être ici.
Le 4 juillet, c'est la grande fête avec des parades, des orchestres en plein air et bien sûr, les feux d'artifice.
Born down in a dead man's town.
Bonne une de USA, Bruce Springsteen, pour souhaiter bonne fête à tous les Américains. Et un choix donc de Georges Léonard Sagnot qui a mis en onde cette édition à la console Linus Romkos, présentation Abdourahman Diar. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.